Maintenant, je vais passer la parole à Gérard Bourgochon du SNUI UFE, l'Union des personnels des finances en Europe.
Oui, donc moi je suis membre du syndicat national unifié des impôts, par ailleurs membre de l'Union syndicale solidaire en France et notamment notre syndicat qui est premier à la direction générale des impôts était présent en 1994 lors des premières démarches de chômeurs en France et puis en 1997 à Amsterdam notamment. Là, on m'a demandé d'intervenir pour illustrer un peu comment au niveau syndical on a pu faire vivre ensemble des syndicats, des impôts et des douanes en Europe et progressivement élaborer ensemble des revendications qui pourraient concourir, si elles étaient satisfaites, à réduire les inégalités dans chaque pays de l'Union européenne et entre les pays de l'Union européenne. Donc cette union syndicale a été créée en 1963, donc c'est vieux, à l'initiative des syndicats des finances d'Allemagne, de l'Ouest de l'époque. Et à ce jour, elle regroupe environ une quarantaine de syndicats d'une vingtaine de pays, il n'y a pas tous les pays de l'Union européenne actuellement, et puis d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Suisse. Donc une vingtaine de pays, une quarantaine de syndicats. Cette union-là est structurée, il y a un congrès tous les deux ans, des cotisations en fonction du nombre d'adhérents, donc c'est une structure permanente, avec un comité fiscal. C'est notre syndicat qui tient la présidence de ce comité fiscal. Et voilà. Un comité douanier avec un président danois et la présidence de l'Union. C'est un collègue allemand qui est président de l'Union. Parmi les 40 syndicats membres, certains sont membres de la CES, d'autres sont des syndicats indépendants, autonomes, non confédérés, comme le nôtre. Et l'une des raisons de la force relative de cette union de syndicats, c'est qu'il y a à la fois donc, des membres de la CES et des membres syndiqués qui ne sont pas forcément membres de la CES, mais qui sont importants dans leur secteur professionnel dans les pays. Le syndicat unifié a adhéré en 1984, sachant que c'était la seule structure intersyndicale sur les impôts et les douanes existante en Europe. Je voudrais tout d'abord vous dire un peu les difficultés qu'on a rencontrées lors des premières années de nos travaux avec les autres syndicats. Un premier problème que chacun et chacune a déjà dû rencontrer, c'est le problème de la langue. Aussi le problème, une fois qu'on a traduit, du sens des mots. Le même mot peut avoir un contenu culturel, historique, différent selon les pays. On s'est rendu compte parfois aussi des incompréhensions provisoire éventuellement, mais tenant au sens des mots eux-mêmes. Les différences de droit, de statut. La première fois que j'ai rencontré des collègues fonctionnaires des impôts en Allemagne, je savais théoriquement qu'ils n'avaient pas le droit de grève, mais quand j'ai vu ce que ça voulait dire, c'est quand même des découvertes. On peut être un pays relativement démocratique et puis que les fonctionnaires n'aient pas le droit de grève, c'est pas évident à intégrer. Et comment donc les salariés doivent agir dans ce contexte-là. Donc, il y a un apprentissage fort à faire entre pays donc, et entre forces syndicales et sociales quand on a des histoires différentes. Problème de langue, de connaissances, de différences sociales, culturelles, politiques, en matière de droit. On a essayé de faire, sans prétention, mais je crois que le rôle de notre syndicat a été assez important pour faire évoluer progressivement les débats au sein de cette union des personnels. Au départ, c'était essentiellement les conditions de travail, les débats qu'il pouvait y avoir, les carrières, les rémunérations, les comparaisons. Et progressivement, on est arrivé à ce que l'union en tant que telle réfléchisse sur des problèmes de fiscalité. À partir de l'idée que si on voulait, dans nos différents pays, soutenir nos revendications professionnelles, plus d'emplois, plus de moyens par exemple, il fallait dans chaque pays avoir l'appui des opinions publiques de ces différents pays et donc essayer de justifier un rôle social utile de ces professions. Et donc le rôle social utile, c'est notamment lutte contre la fraude et puis l'idée de justice fiscale et derrière la justice fiscale, un peu moins d'injustice sociale. Et maintenant, donc, j'ai mis un texte sur une table au fond de la salle. On arrive à avoir des débats ensemble sur une critique des systèmes fiscaux en Europe. Il faut dire aussi que l'évolution des fiscalités en Europe nous aide à créer entre nous des convergences. Liberté de circulation des capitaux en Europe, dans le monde. Les pays doivent être, entre guillemets, attractifs. Il faut que la France soit attractive par rapport à l'Allemagne, que l'Allemagne soit attractive par rapport à la France. C'est le discours qu'on nous porte dans chaque pays, donc c'est la concurrence par rapport aux voisins. Mais ça joue bien, parce que ça conduit à une concurrence entre le capital et le travail, et en fait, une des conséquences directes dans chaque pays, c'est la baisse de la taxation des entreprises, de l'impôt sur les sociétés dans chaque pays, la baisse de la taxation des capitaux, qu'on appelle éventuellement l'épargne, mais c'est quand même les capitaux, hein, et puis la baisse de la taxation des revenus de capitaux, et parallèlement à ça, assez souvent une baisse des budgets publics, un maintien des déficits publics et des dettes, avec la nécessité donc de l'endettement auprès de ceux qui ont des fonds, hein, et puis accessoirement l'augmentation relative de la TVA dans la plupart des pays. Enfin, l'exemple des évolutions fiscales l'année dernière ou il y a deux ans en Allemagne et de ce que vient de faire Sarkozy en France vont tout à fait dans ce sens, quoi. Et sur ces analyses de la fiscalité, donc, on a maintenant des convergences assez fortes pour dénoncer également la concurrence fiscale la mieux élaborée, à savoir l'existence des paradis fiscaux. La Suisse en est un, en Europe, le Luxembourg en est un, et les collègues des impôts du Luxembourg votent les textes où on dénonce l'existence du paradis fiscal luxembourgeois. Au bout de 15 ou 20 ans, bon, ça n'y change rien. Le Luxembourg reste un paradis fiscal avec le secret bancaire, mais c'est quand même satisfaisant donc de voir ces évolutions des professions au sein de l'Union européenne. Ce qu'on a pu faire donc à partir de ces revendications professionnelles et arriver à des revendications de justice fiscale et de justice sociale, ça nous a amené à avoir des interventions auprès de Bruxelles, du Parlement, de la Commission. Et je crois qu'une de tout à l'heure, on a parlé des cheminots en 92. On a fait aussi, nous, en décembre 92, une manifestation à Bruxelles. On était 2500, des Français, des Belges, des Luxembourgeois, des Allemands, des Suisses, un peu de Britanniques. 2500 agents des impôts et des douanes à Bruxelles. C'était une des premières manifs européennes convergentes. On n'était pas venus à pied, on était venus en autocar les uns les autres, ou en train. Mais une initiative assez intéressante. Je vous disais donc que les politiques menées dans chacun des différents pays nous aident à créer des convergences, tant sur une autre fiscalité, un autre budget européen et une autre Europe, que sur des politiques d'emploi, de statut, de place des administrations, des services publics dans nos différents pays et dans l'Union européenne. Et donc des revendications également sur la non-concurrence fiscale, sur l'harmonisation fiscale par exemple, pour faire en sorte que le budget européen d'une part, les budgets nationaux d'autre part, puissent avoir des finances suffisantes, et c'est possible, il y a assez de richesses en Europe, assez de richesses dans la plupart des pays de l'Union européenne, pour permettre des services publics corrects et de redistribution des riches vers les pauvres, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, quoi. On a pour autant échoué, notamment quand on a voulu notre syndicat en France avec l'Union syndicale solidaire. On s'était prononcé contre le projet de traité constitutionnel européen. On a porté ce débat au sein de notre union professionnelle en Europe. On n'est pas arrivé à faire que cette union se prononce contre le traité, malgré le fait qu'on s'était appuyé sur l'aspect fiscal et concurrence fiscale contenu dans le projet de traité. D'autres syndicats, en fonction de consensus, d'autres syndicats n'ont pas accepté, donc l'Union se prononce là-dessus. C'est un échec. Ça montre donc que les convergences sont difficiles à construire, mais c'est pour autant, je pense, un exemple intéressant que même dans des secteurs pas forcément visibles, comme peuvent l'être les cheminots, enfin Christian Maillot qui m'a précédé tout à l'heure, dans des secteurs de travail de bureau, administratifs, il y a aussi des combats qui se mènent, parfois plus discrets, mais des combats qui se mènent et qui sont une utilité importante pour une Europe plus solidaire et plus juste. Merci.
Merci. Maintenant, on va passer la parole à Sophie Zaffari, de AFSU, pour l'Assemblée des mouvements sociaux et forums sociaux européens.
Oui, bonjour. Oui, je suis syndicaliste à l'AFSU. Et on m'a demandé de dire quelques mots sur le Forum social européen et l'Assemblée générale des mouvements sociaux européens. Je pense que c'est bien que ce soit une syndicaliste de l'AFSU parce que ça montre la diversité justement de ce mouvement et de ce processus. Mais il y avait plein de gens ici dans la salle avec qui on partage cette expérience, cette aventure et cette mobilisation qui auraient pu le faire. Donc très rapidement, le Forum social européen, il s'est bien sûr inscrit dans le processus et l'aventure du Forum social mondial, mais avec quelques particularités. Des particularités, mais aussi il partage les enjeux de ce qui s'est posé au niveau du Forum social mondial. D'abord, qu'est-ce que c'est le Forum social ? Certains, je dirais qu'il y a une vision multiforme, certaines qui peuvent avoir tendance à s'opposer, mais à mon sens, c'est un peu tout ça, le Forum social européen comme le Forum social mondial, à savoir à la fois un événement politique qui ressemble, certains diront, à une foire alors internationale ou européenne citoyenne, c'est-à-dire la volonté de beaucoup de citoyens, citoyennes, militants, mouvements sociaux, de se retrouver à un moment donné, de rendre visible leur opposition au libéralisme tel qu'il s'impose au niveau mondial comme au niveau européen. La volonté aussi d'avoir un cadre de travail, avec des conférences, des séminaires, etc. Mais aussi ceux qui insistent plus sur le fait que le Forum social européen comme le Forum social mondial sont plus un processus qui a permis de générer non seulement la rencontre, mais aussi des actions, des mobilisations, la création de réseaux, la création d'alliances de manière, je dirais, plus continue. Alors c'est vrai que du côté des alliances, qui est une question importante hein, pour lutter aujourd'hui, que ce soit sur la question d'ailleurs du chômage, de la précarité, comme la question... comme toutes les questions sociales, mais aussi, par exemple, les questions de la guerre sont des questions essentielles. Et c'est vrai que les forums sociaux ne sont pas nés de rien de ce point de vue-là. Tout ce qui avait existé, qui avait été construit à travers les campagnes, tout comme les Euromarches, par exemple, mais aussi d'autres campagnes qui avaient pu exister, ont évidemment été importantes. Et le forum social européen s'inscrit aussi dans la continuité de ces mouvements, de ces initiatives qui existaient, mais peut-être avec la volonté de donner un lieu de convergence plus fort pour agir peut-être plus efficacement. De ce point de vue-là, le Forum social européen, il a tenu beaucoup de promesses et en même temps, il a aussi évidemment des difficultés. Tenu des promesses parce qu'il a réussi à être ce cadre d'unité très large, unité politique, unité aussi, ou en tout cas rassemblement d'acteurs sociaux et de mouvements sociaux très, très différents, et d'unité, mais aussi de radicalité sur bien des aspects. Le problème auquel il est soumis, c'est quand même aussi un problème d'efficacité. Alors c'est vrai que le Forum social européen, comme le Forum social mondial, s'est doté d'un outil qui est l'Assemblée générale des mouvements sociaux, qui permettait à ceux et celles, mouvements sociaux, citoyens, organisations diverses, forces sociales, qui avaient envie, au-delà du moment de rencontre, d'essayer de construire ensemble une ou des campagnes, de lancer un appel et de se retrouver, de fabriquer ce consensus pour se retrouver là-dessus, se sont dotés donc de cet outil qui est l'Assemblée générale des mouvements sociaux. Alors c'est pas facile, mais c'est vrai que ça a permis déjà beaucoup de choses au niveau européen. Pas facile parce que c'est pas une organisation, on doit fabriquer à partir de culture politique, de culture européenne, parce qu'on s'est aperçu, mais vous le connaissiez déjà vous par votre expérience, la diversité des cultures politiques au niveau européen. On s'est aperçu que c'était pas facile de fabriquer de la convergence, du consensus, pour qu'il ne soit pas quelque chose qui nous dynamise vers le bas, mais qui au contraire nous dynamise vers le haut, pour lancer des initiatives communes. Et les débats qui nous ont traversés, je vais aller assez vite, ils ont déjà été d'ailleurs cités à partir des interventions précédentes. Ce sont à la fois des débats sur pour construire de la convergence. Quel est le thème qu'on met en avant? Et ça n'a pas été facile, parce que les questions de la guerre ont beaucoup, même au niveau européen, focalisé au début notre attention pour construire ces convergences, à cause du déclenchement de la guerre en Irak notamment, bien sûr, mais aussi parce que c'est vrai que ce qui se passe au niveau géostratégique a des implications sur le social, l'environnemental et toutes ces questions. Donc ça pouvait sembler, pour prendre une expression très française, la mer des batailles. Et il a été plus difficile d'avancer et créer sur le social. Pour autant, par exemple, la campagne qui a été menée contre la directive Bolkestein a été très importante et elle a été largement impulsée, pas seulement, mais favorisée par ce qui s'est passé à l'Assemblée générale des mouvements sociaux, parce qu'à un moment donné, cette directive a permis, et c'est là qu'on voit comment on construit de la convergence, elle a permis parce qu'elle était un concentré, je dirais, de ce qui nous rassemble et nous critiquait au niveau du Forum social européen, les aspects de libéralisation, de mise en concurrence généralisée, qui impliquent une casse au plan social, et notamment aussi le chômage et la précarité. Et on avait réussi notamment cette belle manifestation à Bruxelles, mais qui avait été construite en amont par de multiples initiatives dans les pays européens. Mais ça a été possible, mais ne nous cachons pas qu'aujourd'hui, je le disais, on est quand même soumis à des débats compliqués en termes de quelle stratégie, quelle cible. Et pour aller peut-être un peu schématiquement, on est sans arrêt dans la discussion pour se dire, vaut-il mieux qu'on prenne sur la question, par exemple, du chômage et de la précarité, mais la chose est similaire sur les questions des services publics, on en discutait il y a deux jours à Bruxelles. Doit-on favoriser, d'abord construire les luttes locales contre les licenciements dans tel ou tel secteur, telle ou telle entreprise, organiser les chômeurs et partir de ces luttes locales qu'on ferait converger à un moment donné? Mais doit-on pour autant laisser la cible qui est pour nous l'Union européenne, qui par exemple en ce moment on dit veut adopter à la fois à travers son traité, mais à la fois à travers des directives sur la sécurité, des choses qui auront directement ensuite un impact, évidemment sur la question par exemple du droit au travail, de l'emploi, du chômage et de la précarité. Bien sûr, on va dire qu'il faut faire les deux, c'est simple. Mais honnêtement, on voit bien que dans l'Assemblée générale des mouvements sociaux, dans les différents réseaux qui se sont mis en place autour du processus du Forum social européen, c'est une discussion qui n'est pas si simple. Savoir si nous devons mettre toutes nos forces pour faire converger à un moment donné avec comme cible l'Union européenne et ses politiques. Et là, certains pensent que c'est effectivement la mer des batailles, pour reprendre mon expression. Mais en même temps, parce que c'est ça qui aura un impact, et toutes les luttes qu'on pourra faire avant, si on n'a pas été en capacité de s'opposer à ces politiques, on va être en difficulté. Et en même temps, on a bien vu que pour créer de la convergence et pour avoir même compris cette cible, on doit s'appuyer en même temps sur des luttes qui concrètement s'opposent au chômage et à la précarité. Et de même, si on prend sur les services publics, des luttes qui s'opposent, comme il y a eu en Allemagne récemment, à la privatisation, mais comme on en a dans beaucoup de pays européens, tout en disant en même temps, nous devons avoir comme cible, et c'est un des débats qu'on a dans le Forum social européen, l'Union européenne, parce qu'on a là une zone politique, enfin une gouvernance politique à l'échelon européen, qui a des implications sur tous les combats que nous menons. Alors on a cette question-là, et au-delà, je dirais plus largement, il n'est pas si facile de créer évidemment non seulement de la convergence, de débat de ces questions stratégiques, mais d'avoir une réelle efficacité. Pour autant, je crois qu'on n'a pas, même si aujourd'hui on sent non pas un affaiblissement, mais la nécessité de relancer une deuxième étape de ce processus de Forum social européen, en même temps je crois qu'on doit être fiers tous collectivement de ce qu'on a apporté les uns et les autres à la construction de ce cadre inédit. Et je pense que c'est un lieu non seulement où on peut avoir ces débats, où on peut créer de la convergence et où, par rapport aux défis qui nous attendent, On a un lieu qu'il faut continuer à investir, à construire, parce que c'est probablement de là que pourront naître des possibilités de s'attaquer effectivement à l'agenda libéral européen.
Donc maintenant, en fait, nos amis de Canal Marche nous proposent une projection d'une vingtaine de minutes, je crois. Patrice Spadoni va nous en dire quelques mots.
Comme vous le voyez, nous tentons toutes les expériences impossibles, et donc parmi elles, une projection dans une salle en plein jour. On va avoir quelques petites minutes pour installer le matériel et pendant ces quelques minutes, je vais vous parler de l'expérience spécifique de l'association Canal Marche. Puisque Canal Marche s'est formé en même temps que le réseau des marches européennes, c'est-à-dire en 97. Et en 97, nous avons formé une quinzaine de marcheurs qui, pour beaucoup, n'avaient jamais touché une caméra vidéo et qui ont filmé leur carnet de route durant la durée de cet événement, durant la durée de ces marches. Donc, depuis une dizaine d'années, l'association Canal Marche, épisode après épisode, après Cologne, après Amsterdam, il y a eu Cologne, ensuite Nice et puis Rostock. À chaque épisode, nous avons filmé des traces, des moments de cette aventure. Et le film que nous allons vous proposer, qui dure une vingtaine de minutes, est une petite synthèse, une modeste synthèse d'une partie de ces marches. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers ces témoignages vidéo, on se rend vraiment compte que c'est une expérience humaine, que ce sont pour la plupart des sans-voix, des chômeurs, des précaires, des sans-logis qui se sont engagés directement dans ces mouvements et vous allez en avoir quelques petites traces dans le film que vous allez voir. Et puis ce soir, pour ceux qui nous accompagneront jusqu'à ce soir à Montreuil, nous projetterons quelques extraits des vidéos qui ont été tournées, les chroniques vidéo qui ont été tournées lors de la marche qui s'est rendue sur Rostock. Et puis pour conclure, je vous dirais que toute cette mémoire, plusieurs centaines d'heures au total de films ont été tournés en 10 ans. Pour conclure, je vous dirais qu'une partie de cette mémoire se retrouve dans 2 coffrets DVD qui sont accessibles, que vous avez vu certainement, et qui vous permettent de voir, moment après moment, les traces de cette aventure.